Alors, bonjour DJ Poisson.
Bonjour DJ Croc.
Comment vas-tu?
Je vais très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui.
D'être où? Sur la radio Mousse.
La radio mousse, c'est la mousse radio.
Exactement. Et vous êtes en train d'écouter sur le site massradio.com. Et voilà, je ne vais pas faire toute une intro parce que de toute façon, en français.
Il y a plus d'efforts. Il y a plus d'efforts en fait. C'est fini.
Non, mais voilà, notre emploi du temps change toutes les semaines. Si vous voulez trouver notre emploi du temps de la semaine, vous pouvez aller à la page This Week's Schedule sur le site. Et si vous voulez nous envoyer un petit mot, vous pouvez nous envoyer un petit mot à Mars Radio NYC sur Instagram
Ou sur
ou
le chat.
sur le chat. Mettez-vous sur le chat si vous voulez parce que nous y sommes. Voilà. Et vous êtes en train d'écouter, enfin, comment on appelle ça? C'était lecture d'un extrait du discours sur le colonialisme de Césaire. Encore une fois, je m'appelle DJ Croc, je suis
Et
avec
moi.
les poissons.
Merci.
Voilà. Désolé, je t'ai coupé.
Il n'y a pas de souci. Enfin, je t'ai coupé aussi, donc.
C'est pas grave. Alors, on va faire quelque chose rapidement, comme ça. Hop. Voilà. Oula, que se passe-t-il? Une seconde. Oh. Voilà. Ok. Je sors de texte. Tu veux commencer ou je commence?
Écoute, comme tu veux. Hein, bah déjà, peut-être qu'on devrait préciser le fait que on va lire une partie de ce discours parce que le discours fait 40 pages. Donc
En effet.
on va lire. Oupsies, j'ai oublié d'éteindre mes notifications. On va lire une partie du discours du coup jusqu'à le chapitre 4 pour ceux qui suivent. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent.
Oui, jusqu'à la partie 4, c'est pas trop un chapitre, mais
Oui,
jusqu'à la partie 4.
oui.
Bon,
Oui.
bah vas-y, vas-y.
Bah vas-y, je commence. Attends. Je reviens à la première page puisque j'étais tellement avancée dans ma lecture. Ok. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que, déférée à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation qui se confie tout bas les stratèges, que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable.
Pardon, enfin, ils vont pas pouvoir voir. Regarde c'est vraiment la tête de DJ. Parce que mon ordi est en train de me montrer la tête de DJ Poisson. Est enfin, déformé.
MDR.
Toute la lecture, je pouvais pas. Ok, désolé. Par contre, il va falloir que tu parles un tout petit peu plus, enfin, sans genre whisper, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, en fait j'avais peur que avec l'écho ça fasse trop.
Ok, à
Mais
moi.
à toi. Bah, du coup, on va faire page par page. Hein.
Voilà. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs, entre guillemets, maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation, la malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation de convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teocalli, ni Pizarro devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambalouc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes. Christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvait que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes devaient être les Indiens, les Jaunes, les Noirs.
Cela réglé, j'admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier les mondes différemment est excellent. Une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour et que, d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact, ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, et que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministrielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine.
Partie 2. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte une fillette violée, et qu'en France on accepte un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, entre guillemets, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux. Mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend et on espère et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, On a fermé l'œil là-dessus, on a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qui ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les Noirs d'Afrique.
Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit sur des gens, comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer, de Schuman, Bido et quelques autres, il y a Hitler. Au bout du capitalisme, désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal et nous installe en pleine sauvagerie hurlante. Mais descendons d'un degré. Qui parle ? J'ai honte à le dire, c'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard. Que ce soit tiré d'un livre intitulé « La réforme intellectuelle et morale », qu'il y ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, cela en dit long sur les mœurs bourgeoises. Quote, la régénération des races inférieures ou abattardies par des races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours, chez nous, un noble déclassé. Sa lourde main est bien mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Plutôt que de travailler, il choisit de se battre, c'est-à-dire qu'il revient à son premier état. Regere imperio populus, voilà notre vocation. Verser cette dévorante activité sur des pays qui, comme la Chine, appellent à la conquête étrangère. Des aventuriers qui troublent la société européenne, faites un vers sacrum, un essaim comme ceux des Francs, des Lombards, des Normands, chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice, en prélevant d'elle, pour le bienfait d'un tel gouvernement, un ample douaire au profit de la race conquérante. Elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le noir. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme des Noirs et des Chinois, elle se révolte. Tout révolté est, chez nous, plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation. Un être fait pour la race, pour la vie héroïque, et que vous vous appliquez à une besogne contraire à sa race, mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois, un félin, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait, et tout ira bien.
Hitler, Rosenberg, non. Renan. Mais descendons encore d'un degré. Et c'est le politicien verbeux qui proteste. Personne que je sache, lorsque M. Albert Sarrault, tenant discours aux élèves de l'école coloniale, leur ancienne qui serait puérile, d'opposer aux entreprises européennes de colonisation un prétendu droit d'occupation, donc entre guillemets, un prétendu droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de farouche isolement qui pérenniserait en des mains incapables la vaine possession de richesses sans emploi. Et qui s'indigne d'entendre un certain R.P. Bard assurer que les biens de ce monde, entre guillemets, s'y restaient indéfiniment répartis, comme ils le seraient sans la colonisation, ne répondraient ni au dessein de Dieu, ni aux justes exigences de la collectivité humaine. Attendu, comme l'affirme son confrère en christianisme, le R.P. Müller, que l'humanité ne doit pas, ne peut pas souffrir que l'incapacité, l'incurie, la paresse des peuples sauvages laisse indéfiniment sans emploi les richesses, sans emploi les richesses que Dieu leur a confiées avec mission de les faire servir au bien de tous. Personne. Je veux dire pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé du droit et de la religion, pas un défenseur de la personne humaine.
Et pourtant, par la bouche des sarraux et des bardes, des muleurs et des renans, par la bouche de tous ceux qui jugeaient et jugent licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice des nations plus fortes et mieux équipées, une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'était déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir ? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie où, à n'importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde. Il paraît que c'est tiré de vieux squelettes au placard. Voire, était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l'Algérie, quote, pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper les têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes. End quote. Convenait-il de refuser la parole au comte des Rissons? Quote, il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées, pair à pair, sur les prisonniers, amis ou ennemis. End quote, fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de loi barbare, de foi barbare? On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres? Quote, il faut une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Goths. End quote.
Fallait-il enfin rejeter dans les ténèbres de l'oubli le fait d'armes mémorable du commandant Gérard et se taire sur la prise d'Ambic, une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre. J'ouvre les guillemets. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas. Enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnent pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang des 5000 victimes, l'ombre de la ville, qui s'évaporait au soleil couchant. Oui ou non, ces faits sont-ils vrais? Et les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous Tu sais pas non plus.
Frisselise.
Oui, qui se frisselise.
Bien sûr.
Qui vous frisselise la carcasse de Loti quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamite. Vrai ou pas vrai? Il s'agit du récit de la prise de Toinon, okay, paru dans le Figaro en septembre 1900. Ok, je lisais juste la note. Et si ces faits sont vrais, comme n'est au pouvoir de personne de le nier, dira-t-on pour les minimiser que ces cadavres ne prouvent rien? Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose, c'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces vies qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Ils prouvent que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme, même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Que le colonisateur, qui, pour se donner une bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation, qui est d'importer de signaler.
Partialité? Non. Il fut un temps où ces mêmes ou de ces mêmes faits on tirait vanité, et où, sûr du lendemain, on ne mâchait pas ses mots. Une dernière citation, je l'emprunte à un certain Carl Siger, auteur d'un essai sur la colonisation. Guillemets. Les pays neufs sont un vaste champ ouvert aux activités individuelles violentes, qui, dans les métropoles, se heurteraient à certains préjugés, à une conception sage et réglée de la vie, et qui, aux colonies, peuvent se développer plus librement et mieux affirmer par la suite leurs valeurs. Ainsi, les colonies peuvent, à un certain point, servir de soupape de sûreté à la société moderne. Cette utilité serait elle la seule, elle est immense. En vérité, il est des tares qu'il n'est au pouvoir de personne de réparer et que l'on n'a jamais fini d'expier. Mais parlons des colonisés. Je vois bien ce que la colonisation a détruit. Les admirables civilisations indiennes et que ni Deterding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront jamais des Aztèques ni des Incas. Je vois bien celles, condamnées à terme, dans lesquelles elle a introduit un principe de ruine. Océanie, Nigeria, Nyasaland. Je vois bien moins bien ce qu'elle a apporté. Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois, partout où il y a, face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt et, en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a pas de place, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la bufflerie, des élites décrébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme en colonisateur en pion, en adjugeant, en garde chiourne, en chicote et l'homme indigène en instrument de production.
À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de société vidée d'elle-même, de culture piétinée, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur dieu, à leur terre, à leur habitude, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinicine. On m'en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On se targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi au détriment des peuples un circuit de bons services et de complicité.
On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations paro-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier, chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'était des sociétés démocratiques, toujours. C'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait, elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables ni condamnables. Elle se contentait d'être. Devant elle n'avait de sens ni le mot échec, ni le mot avatar. Elle réservait l'intact, l'espoir. Au lieu que ce soit les seuls mots que l'on puisse, en toute honnêteté, appliquer aux entreprises européennes hors d'Europe. Ma seule consolation est que les colonisations passent, que les nations ne sommeillent qu'un temps et que les peuples demeurent. Cela dit, il paraît que, dans certains milieux, l'on a faim de découvrir en moi un ennemi de l'Europe, un prof et un prophète du retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours, où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine, où l'on m'a vu prêcher un quelconque retour, où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce contact a été opéré, que c'est au moment où l'Europe est tombée dans les mains des financiers et des capitaines de l'industrie les plus dénués de scrupules que l'Europe s'est propagée, que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire.
Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdit avec eux une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'a tendu à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'ils avaient de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a hanté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme sur la vieille inégalité. Que si c'est un procès d'intention que l'on me fait, je maintiens que l'Europe colonisatrice est déloyale à légitimer a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, attendu que la mutation brusque est chose toujours possible, en histoire comme ailleurs, que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne, que l'équipement technique, la réorganisation administrative, entre guillemets l'européanisation, en un mot, de l'Afrique ou de l'Asie, je pensais. Je sais pas pourquoi c'est un P.
Oui, sûrement, ouais.
Oui. De l'Afrique ou de l'Asie n'était comme le prouve l'exemple japonais aucunement lié à l'occupation européenne, que l'européanisation des continents non européens pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe, que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas il a été faussé par la mainmise de l'Europe. À preuve qu'à l'heure actuelle, ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse, que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes, que c'est l'Europe colonisatrice qui à ce sujet lésine, que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant, que c'est le colonisateur qui retient en arrière.
Partie 3. Passant plus outre, je ne fais point mystère de penser qu'à l'heure actuelle, la barbarie de l'Europe occidentale est incroyablement haute, surpassée par une seule, de très loin, il est vrai, l'américaine. Et je ne parle pas de Hitler, ni du garde Chiron, ni de l'aventurier, mais du brave homme en face. Ni du SS, ni du gangster, mais de l'honnête bourgeois. La candeur de Léon Blois s'indignait jadis que des escrocs, des parjures, des faussaires, des voleurs, des proxénètes fussent chargés de porter aux Andes l'exemple de vertu chrétienne. Le progrès est qu'aujourd'hui, c'est le détenteur des vertus chrétiennes qui brille et s'en tire fort bien. L'honneur d'administrer Outre-mer selon les procédés des faussaires et des tortionnaires. Signe que la cruauté, le mensonge, la bassesse, la corruption ont merveilleusement mordu l'âme de la bourgeoisie européenne. Je répète que je ne parle ni de Hitler, ni du SS, ni du pogrom, ni de l'exécution sommaire. Mais de telles réactions surprises, de tels réflexes admis, de tels cynismes tolérés. Et si on veut des témoignages, de telles scènes d'hystérie anthropophagique à laquelle il m'a été donné d'assister à l'Assemblée nationale française. Bigre, mes chers collègues, comme on dit, je vous ôte mon chapeau d'anthropophage, bien entendu. Pensez donc, 90 000 morts à Madagascar, l'Indochine piétinée, broyée, assassinée, des tortures ramenées du fond du Moyen-Âge. Et quel spectacle, ce frisson d'aise qui vous revigorait les somnolences. Ces clameurs sauvages, Bido avec son air d'hostie confié, l'anthropophagie papelarde et sainte nitouche, Tchèche, Fils grabeleur en diable, l'aliboron du desservelage, l'anthropophagie des pandectes, moutet, l'anthropophagie maquignarde, la baguenaude ronflante et du beurre sur la tête, coste florée, l'anthropophagie faite ours mal léché et les pieds dans le plat.
Ça, c'est pas grave, n'était pas simple.
C'était complexe, j'ai compris genre deux mots.
Mais
je crois que j'ai pas assez de culture.
Je suis un homme.
C'est ça.
Inoubliable, messieurs. De belles phrases solennelles et froides comme des bandelettes, on vous ligote le malgache. De quelques mots convenus, on vous le poignarde. Le temps de rincer le sifflet, on vous l'étripe. Le beau travail, pas une goutte de sang ne sera perdu. Ceux qui en font rubis sur l'ongle, n'y mettant jamais d'eau. Ceux qui, comme Ramadier, s'embarbouillent à la silène, la face. Oula, font lupe espérabé, qui s'en empèse des moustaches, genre vieux gaulois à la tête ronde, le vieux Desjardins penché sur les effluves de la cuve et s'en grisant comme d'un vin doux. La violence, celle des faibles. Chose significative, ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. J'avoue que pour la bonne santé de l'Europe et de la civilisation, c'est, entre guillemets, c'est il faut que ça saigne, éructé par le vieillard qui tremble et le bon jeune homme, élève des bons pères, m'impressionne beaucoup plus désagréablement que les plus sensationnels hold up, à la porte d'une banque parisienne. Et cela, voyez-vous, n'a rien de l'exception. La règle, au contraire, est de la muflerie bourgeoise. Cette muflerie, on la piste depuis un siècle. On l'ausculte, on la surprend, on la sent, on la suit, on la perd, on la retrouve, on la file, et elle s'étale chaque jour plus nauséeuse. Oh, le racisme de ces messieurs ne me vexe pas. Il ne m'indigne pas. J'en prends seulement connaissance. Je le constate, et c'est tout. Je lui sais presque gré de s'exprimer et de paraître au grand jour, signe que l'intrépide classe qui monta jadis à l'assaut des Bastilles, elle est jarrée et houpée. Signe qu'elle se sent mortelle, signe qu'elle se sent cadavre, et quand le cadavre bafouille, ça donne des choses dans le goût que voici. J'ouvre les guillemets. Il n'y avait que trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui
qui utilise des mots d'homme.
Oula, je me disais.
Ah oui, non, ok, ouais, c'est
une conjugaison que j'ai jamais vue.
C'est ça. C'est quoi, c'est le passé compos.
On recommence la phrase. Il n'y avait que trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui refusèrent, ni au siècle de Colomb, de reconnaître leurs semblables dans les hommes dégradés qui peuplaient le Nouveau Monde. On ne saurait fixer un instant ses regards sur le sauvage sans lire l'anathème écrit. Je ne dis pas seulement dans son âme, mais jusque sur la forme extérieure de son corps. Et c'est signé Joseph de Maistre. Ça, c'est la mouture mystique. Et puis, ça donne encore ceci. Au point de vue sélectionniste...
J'ouvre les guillemets. Au point de vue sélectionniste, je regarderai comme fâcheux le très grand développement numérique des éléments jaunes et noirs qui serait d'une élimination difficile. Si toutefois la société future s'organise sur une base dualiste, avec une classe d'olico-blonde dirigeante et une classe de race inférieure confinée dans la main-d'œuvre la plus grossière, il est possible que ce dernier rôle incombe à des éléments jaunes et noirs. En ce cas d'ailleurs, il ne serait pas une gêne, mais un avantage pour les d'olico-blondes. Il ne faut pas oublier que l'esclavage n'a rien de plus anormal que la domestication du cheval ou du bœuf. Il est donc possible qu'il réapparaisse dans l'avenir sous une forme quelconque. Cela se produira même probablement d'une manière inévitable si la solution simpliste n'intervient pas. Une seule race supérieure, nivelée par sélection. Ça, c'est la mouture scientiste et c'est signé Lapouche. Et ça donne encore ceci, cette fois mouture littéraire. J'ouvre les guillemets. Je sais que je dois me croire supérieur aux autres, aux pauvres. Bayard de la Mambéry. Je sais que je dois avoir l'orgueil de mon sang. Lorsqu'un homme supérieur cesse de se croire supérieur, il cesse effectivement d'être supérieur. Lorsqu'une race supérieure cesse de croire que c'est une race élue, elle cesse effectivement d'être une race élue. Fin de citation. Et c'est signé Psychiatrie, soldat d'Afrique. Traduit en patois journalistique, on obtient du fagay. J'ouvre les guillemets à nouveau. Le barbare est de même race, après tout, que le romain et le grec. C'est un cousin. Le jaune, le noir, n'est pas du tout notre cousin. Ici, il y a une vraie différence, une vraie distance, très grande, ethnologique. Après tout, la civilisation n'a jamais été faite jusqu'à présent que par des blancs. L'Europe devenue jaune, il y aura certainement une régression, une nouvelle période d'obscurcissement et de confusion, c'est-à-dire un second Moyen-Âge. Fin de citation. Et puis plus bas, toujours plus bas, jusqu'au fond de la fosse, plus bas que ne peut descendre l'appel, monsieur Jules Romain, de l'Académie française, et de la Revue des Deux Mondes, peu importe, bien entendu, que monsieur Farigoul change de nom une fois de plus et se fasse ici appeler Salsette pour la commodité de la situation, l'essentiel est que monsieur Jules Romain arrive à écrire ceci. Je n'accepte la discussion qu'avec des gens qui consentent à faire l'hypothèse suivante. Une France ayant sur son sol métropolitain 10 millions de Noirs, dont 5 ou 6 millions dans la vallée de la Garonne. Le préjugé de race n'aurait-il jamais effleuré nos vaillantes populations du Sud-Ouest ? Aucune inquiétude. Si la question s'était posée de remettre tous les pouvoirs à ces Noirs, fils d'esclaves. Il m'est arrivé d'avoir en face de moi une rangée d'une vingtaine de Noirs purs. Je ne reprocherais même pas à nos Noirs et Noires femmes de mâcher du chewing-gum. J'observerai seulement que ce mouvement a pour effet de mettre les mâchoires bien en valeur et que les évocations qui vous viennent à l'esprit vous ramènent plus près de la forêt équatoriale que de la possession des Panathénées. La race noire n'a encore donné, ne donnera jamais un Einstein, un Stravinsky, un Gershwin. Fin de citation.
Comparaison idiote pour comparaison idiote, puisque le prophète de la Revue des Deux Mondes et d'autres lieux nous invite au rapprochement distant, qui permette au noir que je suis de trouver, personne n'étant maître de ses associations d'idées, que sa voix a moins de rapport avec le chêne, voire les chaudrons de Dodone, qu'avec le braiement des ânes du Missouri. Encore une fois, je fais systématiquement l'apologie de nos vieilles civilisations noires, c'était des civilisations courtoises. Et alors, me dira-t-on, le vrai problème est d'y revenir. Non, je le répète, nous ne sommes pas les hommes du « ou ceci ou cela ». Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique et stérile tentative de réduplication, mais d'un dépassement. Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire revivre. Nous laissons cela aux amateurs d'exotisme. Ce n'est pas davantage la société coloniale actuelle que nous voulons prolonger, la plus carne qui ait jamais pourri sous le soleil. C'est une société nouvelle qu'il nous faut, avec l'aide de tous nos frères esclaves, créés, riches de toute la puissance productive moderne, chaude de toute la fraternité antique. Que cela soit possible, l'Union soviétique nous en donne quelques exemples. Mais revenons à M. Jules Romain. On ne peut pas dire que le petit bourgeois n'a rien lu. Il a tout lu, tout dévoré au contraire. Seulement son cerveau fonctionne à la manière de certains appareils digestifs de type élémentaire. Il filtre. Et le filtre ne laisse passer que ce qui peut alimenter la couenne de la bonne conscience bourgeoise. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient gens de culture vieille, exquise et raffinée. Ce rappel indispose la banque d'Indochine. Faites fonctionner l'oublioir. Ces malgaches que l'on torture aujourd'hui étaient, il y a moins d'un siècle, des poètes, des artistes, des administrateurs. Chut, bouche cousue. Et le silence se fait profond comme un coffre-fort.
Heureusement qu'il reste les Noirs. Ah, les Noirs. Parlons-en des Noirs. Eh bien oui, parlons-en. Des empires soudanais, des bronzes du Bénin, de la sculpture Chongo, je veux bien. Ça nous changera de tant de sensationnels navets qui adornent tant de capitales européennes. De la musique africaine, pourquoi pas. Et de ce qu'on dit, de ce qu'ont vu les premiers explorateurs, pas de ceux qui mangent au râtelier des compagnies, mais des élbés, des marchais, des pigafetta. Et puis de Frobenius. Hein, vous savez qui c'est, Frobenius? Et nous le lisons ensemble. J'ouvre les guillemets. Civilisé jusqu'à la moelle des os. L'idée du noir barbare est une invention européenne. Fin de citation. Le petit bourgeois ne veut plus rien entendre. D'un battement d'oreille, il chasse l'idée. L'idée, la mouche importune. C'est donc la fin de notre petite lecture.
Voilà. En fait, moi, je m'étais dit que c'était avec partie 4, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'ai pas fini.
Ah zut. Mais, ah bah vas-y, on fait la partie 4 alors.
Bah en vrai, le truc, c'est qu'il nous reste 20 minutes, tu vois.
Bah ouais.
Donc ça veut dire que du coup on parlerait pas du tout et c'est oui. un peu chaud.
Bon, peut-être qu'on
partie 4 pour
peut-être s'il y a quelqu'un qui nous ouais c'est vrai. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui nous écoute, il pourrait dire dans le chat.
Vraiment, il y a littéralement souvent personne qui nous
écoute. Et tu dis ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, DJ Croc.
C'est vrai, my bad.
On est sur Mousse, la radio Mousse quand même. Sérieux.
Alors, je regarde le chat. Qui est
je vais regarder le...
Mais en même temps, je vois qu'il y a une personne qui nous écoute. Donc, quelqu'un est en train personne. De mentir. Quelqu'un est en train de mentir.
Quelqu'un est en train de mentir. Est-ce que tu parles français ? Personne qui nous écoute.
Ne parle pas français.
La personne ne parle pas français. Peut-être que la personne ne parle pas.
Ne parle pas.
Est-ce que tu as commencé à l'enregistrer ce.
Ce quoi ?
Enfin, les shows un peu.
Oui, ils sont enregistrés.
Tous ? Ah, ok.
Bah, tous, mais après, ils ne sont pas tous publiés sur les archives, mais ça, par exemple.
Oui, oui.
Mais je pense que si tu vas sur nos archives, attends, je te le dis tout de suite.
Ah, il y a les archives maintenant, mais
ouais,
c'est
maintenant,
super.
Il y a les archives.
C'est super avancé.
Il y a en effet notre premier reading de la société punitive qui se trouve sur les archives.
Mais non, c'est le top.
Mais c'est
le top, j'adore la radio.
En plus, vraiment, cette première lecture, c'était.
était catastrophique, mais pas tant catastrophique. Moi, j'ai plutôt bien aimé.
Mais donc, il faut que j'ai update pour mettre les prochains. Fin.
Ah ouais, incroyable.
Donc, voilà, je mets quelques trucs, mais pas tout. Quoi.
Ouais, ok, d'accord. Là, c'est mais super.
Mais ouais, donc non, c'est plutôt bien comme ça.
Ouais, bah, j'adore. Hein.
Donc voilà, petit. Donc oui, ça sera sûrement en archive, surtout qu'on a bien lu, je trouve, là.
Ouais, là, on
pas arrêté.
Après, ce qui était cool, c'est aussi que. C'était un peu oral quand même, à part ouais. quelques mots, etc. Ouais. C'était. Enfin, bah, forcément, c'est un discours, donc voilà. Discours oral, pléonasme.
Ouais. C'est vrai.
Mais ouais, non, bah écoute, en vrai, je pense qu'on pourrait, on devrait, en fait, lire un truc jusqu'au bout et du coup le couper en plusieurs fois, tu vois. Donc
ouais,
la prochaine fois, on devrait,
donc,
ouais.
Donc on devrait continuer la prochaine fois, je regarde un peu.
Oui, comme ça on pourra voir jusqu'au sur le colonialisme.
Donc là on a lu.
On lit l'autre moitié, en gros.
Donc attends, là on a lu, hop, 20 pages.
4.
Ouais, donc voilà.
Ouais,
l'autre
voilà.
Moitié, de 4 à... 4 ouais. à... C'est quoi la dernière partie ? 6, donc 4, 5, 6, parfait.
Okay.
L'autre moitié.
Mais c'est super.
On fera ça la prochaine fois.
J'espère que les gens auront hâte de nous écouter. Ils ont
honnêtement, une fois que c'est sur les archives aussi, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout.
Bah c'est ça, ouais, on ne peut pas quantifier, on ne peut plus quantifier ceux qui nous écoutent, c'est vrai.
Exactement.
Ouais,
c'est vrai que c'est midi, heure New York, c'est pas exactement le. Enfin, tu vois, quand je pense à la population qui pourrait nous écouter,
oui.
soit ils sont en train de bosser, soit il est un peu l'heure du dîner, tu vois. Enfin, faudrait en fait trouver une heure qui convient mieux aux deux.
Mais c'est compliqué. Mais un peu, c'est compliqué, quoi, en fait. Parce que moi,
je finis.
En fait, moi, c'est après 17h, en gros.
Ouais.
Pour moi. Donc
de toute façon, ils n'ont pas besoin d'écouter ça. Genre vraiment notre emploi du temps de vous. Partir en FaceTime le truc.
C'est toujours comme ça, les gens ils doivent en avoir marre là. La personne qui nous écoute, j'espère qu'elle est pas trop, elle s'ennuie pas trop quand même. Ce serait con hein.
Elle nous avait pas répondu sur le chat.
Elle s'en fout de nous.
Ça c'est vraiment le background noise.
Ouais, je te jure.
T'es en train de dormir, t'entends une petite voix en français.
Une petite voix qui rigole comme les petits lutins, les petits lutins.
Exactement. Mais donc, qu'en as-tu pensé, Emily ?
Eh bien.
j'ai pas fini le mot.
Oui, exact. Écoute, attends, j'avais pris quelques petites notes. J'en ai pas pris des tonnes.
Vas-y, je vais ressortir mes notes aussi.
Oh, ouais, bon, j'avais pris 3 notes. Hein.
DJ Poisson. Superbe.
Alors, ma première petite note, c'était, et puis c'était quelque chose d'intéressant à noter, c'était au début de la page 6. Donc, si tu veux revenir ou quoi.
Ouais.
En gros, mais César, à ce moment-là, il parlait de réétablir et de rabaisser l'être colonial. Et je trouvais ça intéressant. Enfin, le concept un peu d'inversement de rapport de force.
Ah, parce attends, que, c'est page 6, c'est quel paragraphe ?
Le premier, tout au début. Le premier.
Et c'était quoi la phrase ?
On va faire les choses bien. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, ah oui. à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts ouais. enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il est au Vietnam... Bon, en fait, la phrase bon, est super
longue. Non, besoin de lire toute la phrase, mais je pense qu'on a compris.
Oui. Ouais, bah, désolé, mais je pensais pas que la phrase, elle ferait un million
de choses. Le paragraphe entier.
Je te jure. Je crois qu'à l'école, on nous a appris qu'il ne faudrait pas faire une phrase aussi longue. Mais bon. Mm-hmm. Peut-être que l'école est un état d'être colonial et que, voilà. Enfin, bon, je dis des bêtises. Donc, j'aime bien un peu comment ce paragraphe il frame l'être colonial, enfin le colonisateur en tant que problème et pas et sans, enfin il sent autant se focaliser sur la victime comme un être pauvre et démuni ouais. de moyens et le fait que le colonialisme rend inhumain, genre, enfin voilà, c'est un commentaire. Alors, écoute. Très
non, et ben c'est aussi, ben, je trouve ça tie un peu into... quand il dit plus tard, attends, j'essaie de trouver
quand un il sacré dit, commentaire de texte linéaire là, mon ami là, incroyable.
C'était la fin de la partie 2, je pense. Ah, voilà, ou c'est ah non, pas du tout. Enfin, quand il dit en fait que c'est le colonisateur qui empêche, enfin tu vois que le peuple colonisé est en train de demander à ce moment-là genre des routes, des écoles, des ports et tout, et qu'en fait c'est le colonisateur qui empêche
oui.
ce développement.
Oui. Tu vois, oui.
Alors
ça
que
ça change de l'idée un peu reçue.
Voilà, exactement, et que en général, enfin tu vois, ouais, que en général, enfin on essaye de pousser l'idée dans les pays colonisateurs. Que voilà, on a une présence économique et politique et militaire dans un pays pour pouvoir soutenir le développement du pays, parce que voilà, c'est un pays qui a beaucoup de mal, tu vois.
Et qu'ils ont besoin d'aide. Et que
voilà, ils ont besoin d'aide, ils n'ont pas assez de ressources.
Ouais.
Après, tu regardes par exemple la quantité d'art qu'on a dans, en
dans France, dans nos musées.
Dans nos musées qui viennent des pays colonisés. Qu'on pourrait absolument rendre pour exactement, enfin tu vois,
oui.
soutenir la
oui,
culture, oui, oui. le développement d'un patrimoine, genre tout ça, et que bah non, en fait,
oui, c'est ça, oui, oui. Puis même ça me, enfin, ce trigger route, du coup, je reviens un peu à ce que tu disais avant, mais ce truc sur les routes, c'est très intéressant parce que je me souviens, enfin, c'était un livre de bon, écoute, c'était des trucs qu'on a dû. Tout ce lien, je pense, au lycée américain, mais en gros, c'était au Nigeria, et en gros, ça disait que les Anglais, ils empêchaient vraiment la construction des routes parce que ça empêchait en fait la collecte de pétrole au Nigeria. Et que du coup, t'avais des gens qui pouvaient pas aller à l'école à cause de ça, etc. Bref, ouais. Tous les problèmes que le fait de pas avoir une route peut causer. Mais voilà, c'est quelque chose bien sûr qui s'étend à la colonie, enfin à la colonisation en tant que qu'acte, enfin en tant que pratique plus ouais. générale, quoi.
Et même, tu vois, enfin quand je pense à enfin la citation que t'as prise tout à l'heure par rapport au colonisateur qui devient lui-même enfin sauvage, quoi, qui devient lui-même déshumanisé ou des enfin qui n'est pas moral. Je pense à même ce qui se passe en ce moment, tu vois, et à la Palestine, et comment, enfin, comment tu dis starvation,
what?
Starvation.
Ah, famine.
Oui, voilà, que la famine est utilisée, enfin, vraiment comme acte colonial, comme, enfin, tu vois, comme.
Oui, comme outil de, bah oui, mais
voilà,
oui.
Comme outil de colonisation et de génocide, quoi. Et pourtant. Que c'est les mêmes personnes ou qui défendent ça qui vont ensuite dire, enfin tu vois, le manger c'est un droit humain, tu vois, d'avoir accès à la nourriture, que si eux où un de leurs proches n'avait pas accès à de la nourriture, ça serait vraiment la fin du monde, enfin, ce qui est vrai, tu vois.
Oui, bah oui, c'est vraiment la fin du monde.
C'est très vrai, mais genre, ça serait la fin du monde pour eux. Mais
oui, c'est contre, ça, mais c'est la fin passe, du monde. Oui, oui, oui.
Qui n'est pas blanc, qui n'est pas dans des pays, enfin, qui n'est pas colonisé
par lui-même, quoi. C'est de l'autre côté d'une frontière, quoi.
Voilà, exactement. Ça devient légitime, enfin, légitimisable.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et même, j'ai des cours à New York où on est en cours en train de discuter, enfin de négocier la légitimité de la famine en tant que outil de guerre.
Waouh, waouh.
Tu vois, et là tu
c'est
dis dingue, non mais
c'est vraiment dans les stades du génocide, enfin écrit ce genre d'outils, voilà. Tu vois, la Gestapo, tu prives les gens de ressources extérieures, tu les prives de sortir, bah oui, en fait, c'est un outil de génocide, quoi. C'est
absolument, et sûrement, surtout quand vois qu'il y a eu genre certains journalistes qui ont rapporté des preuves du fait qu'il y a des drogues qui sont mises dans les sacs de nourriture d'aide qui sont
oui,
en Palestine,
oui, ouais,
ou des virus qui sont, enfin tu vois, ou de la moisissure, des trucs comme ça qui sont acceptés pour ensuite rendre le peuple malade, que le prix de la nourriture augmente constamment. Pour ensuite, enfin, tu vois, que les gens sont mis en compétition contre les uns contre les autres. Et voilà, et donc ensuite, tu penses à comment le colonisateur lui-même se déshumanise complètement, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Il perd toute vue de ce qui est légitime, ce qui est humain. Tout pour pouvoir justifier, enfin, d'avoir raison, quoi.
Bah ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, par exemple, si on prend l'exemple de la drogue, si quelqu'un, enfin, okay, si on va dire le colonisateur, enfin, on va l'appeler très simplement, si cette personne va mettre de la drogue dans des affaires ou dans des matériels de quelqu'un d'autre ou destiné à quelqu'un d'autre, ça veut dire que même cette personne a dû le sourcer, enfin, elle a dû le trouver quelque part, on va dire, et le même acte qui est techniquement interdit, qui est techniquement illicite, devient OK selon les fins, tu vois. Mais
on voit aussi à quel point la fin est juste économique et politique, tu vois. Enfin, il y a pas de c'est pas une vengeance spirituelle ni rien, enfin c'est vraiment juste pour avoir de la terre.
Ouais.
Construire dessus.
Puis nous, on veut pas des ressources.
Oui, des ressources.
Des ressources, par exemple,
pouvoir agrandir son propre territoire aussi et son propre pouvoir. Ouais.
Mais pas que, en plus, c'est aussi avec du gaz, etc., les minéraux. Ouais. C'est des eaux qui sont très riches.
En général, le colonisateur pille toutes les
ressources. Oui, voilà.
Colonisées.
C'est comme les citations là. Ah, quelque chose d'autre que j'avais bien aimé, c'était le fait de dénoncer. Enfin, en plus, à l'époque, je sais pas. Quand ce discours est sorti, je dis ça comme s'il avait droppé un album, mais en gros,
sur Spotify,
c'est ça, grosse release là.
Bah, disons que déjà, Aimé Césaire, il écrit, enfin c'était le prof de Fanon. Donc...
C'était clairement, moi j'aurais dit années 60, tu vois, mais bon, voilà,
je ne sais pas exactement la date, c'est quand même 1950 à Paris.
Ok, d'accord, bah voilà.
Donc, 1950, pour ça, c'est chaud. Hein.
Ouais, c'est ça. Et le fait qu'il critiquait en 1950, c'est ça qui m'a pas mal intéressé, c'est le pseudo-humanisme, qui est quelque chose qu'on voit tellement, tellement maintenant.
C'est bien.
Pardon, désolé. Oui, c'est bien. Enfin, c'est un peu, non, mais c'est juste impressionnant. En gros, c'est très actuel. C'est tellement actuel, tu vois, comme discours. C'est le même paragraphe, mais plus tard, qui dit « En France, on accepte un malgache supplicié, qu'en France, on accepte un acquis, enfin, en France, on accepte au Vietnam, une fille coupée, enfin, voilà. Tout ça, là, toute cette liste un peu des atrocités qu'on peut accepter ailleurs, mais pas en France, ça me fait penser aussi le fait que, quand on est en France, on n'accepte jamais qu'il y a un mort français sur un territoire étranger.
Absolument.
Mais que la France est aussi responsable de beaucoup de personnes dans son territoire, etc. Enfin, c'est plus OK quand il y a des morts sur le territoire français plutôt que des morts françaises sur le territoire étranger. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ouais. Ça me...
Et même, c'est, en vrai, c'est... si on revient à la semaine dernière, tu vois, à notre lecture de la semaine dernière sur l'empire colonial français, et tu penses même, en fait, qu'on ait des écrivains comme ça, qui ont écrit ça en 1950, qui font partie de la culture française, mais vraiment, pas tout le monde en parle, il y a vraiment... Enfin, c'est connu, quoi. Mm. Et qu'ensuite, il y a des trucs comme, par exemple, la mort de Naël qui se passe... En quoi, c'était 2023 ?
Ouais,
ouais. Ouais, 2023, je pense.
2023 ou 2024, je sais pas. Je sais pas.
Et tu vois, non, 2023. Ouais, que des trucs comme ça se passent. Et ensuite, que dans le discours qui est autour de, des événements récents ou des systèmes qui existent en ce moment, il n'y a aucune discussion de la colonisation. Ou par exemple, de la manière dont les peuples en France qui viennent de pays colonisés sont traités, tu vois.
C'est là que, aussi, on en avait parlé la semaine dernière, mais notre discussion sur l'école et des discours, enfin, de l'éducation scolaire autour de la colonisation, ce serait tellement nécessaire, tu vois, parce que si les gamins en parlaient plus tôt, t'en aurais qui découvriraient des passions pour ça, ou des... Enfin, voilà, juste un intérêt...
Mais t'imagines en même temps un lycée français qui va te faire lire quelque chose où il y a écrit « L'Europe est indépendable ». Putain.
Oui, c'est ça. Du coup, tu peux pas arriver dans une société plus déconstruite, mais de toute façon, ça marcherait pas puisque c'est pas le but, de toute façon. Je sais pas le point que je voulais faire, tu vois.
Même cette vision qu'on en est plus là, tu vois. Comment ?
On est plus là, mais t'en parles pas parce que c'est censé être accepté, mais c'est pas du tout accepté. Fin...
Exactement. Exactement. En fait, enfin, tu vois, c'est un peu pour moi en tant qu'Américain aussi, c'est un peu comme ça que fonctionne la France en général. C'est vraiment.
Oui.
Enfin, tu vois, ici, par exemple, il y a beaucoup. Enfin, tu vois, les choses. Enfin, je sais pas. En France, vraiment, il y a un système où t'en parles pas. Ça n'existe pas, quoi. Tu vois.
Oui.
En fait, comme il y a tellement. Ils essayent tellement de créer un récit national. Que les Américains n'arrivent pas à créer, puisqu'il y a tellement une diversité d'états,
d'histoires différentes.
Quelque chose d'aussi unifié, quoi.
Oui.
Surtout sur un territoire aussi large que.
Ouais. Par exemple, en France, tu vois, on a souvent l'idée que, par exemple, dans une décision politique ou quoi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a une France unie face à certaines décisions politiques, tu vois, à part pour des choses comme Pétain ou quoi. Mais après, tu as les États-Unis qui ont souvent des décisions politiques très peu unies. Notamment la guerre civile, voilà, tu vois.
Ouais.
T'avais vraiment des rapports complètement opposés. Remarque, bon, après, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est un peu un contre-exemple.
Ouais. Mais bon, il nous reste 2 minutes.
Voilà.
Donc, moi, je trouve qu'on a une super discussion.
Non, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, on devrait aussi essayer de... Je sais pas, peut-être qu'on devrait penser à organiser la chose différemment. Peut-être qu'on devrait introduire le sujet pendant plus longtemps.
Ouais, c'est vrai. Introduire le texte.
Ce serait pas mal, ça.
Un peu de contexte.
Ouais, c'est ça.
Écoute.
Bon, on a beaucoup d'améliorations.
On s'améliore à chaque fois.
Ouais, c'est ça. L'amélioration continue, les amis.
D'apprentissage.
Exactement. Complètement.
C'est beau.
Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi, DJ Croc.
Ah, et vraiment, en fait, il faudrait commencer à... Ouais, même peut-être faire une pause, tu vois, entre parties.
C'est ça.
Expliquer la partie. Ou même quelques bullet points par partie où on résume un peu.
C'est ça. À la fin de chaque partie ou chaque chapitre ou toutes les... Ouais.
Ouais.
Bah, la semaine prochaine, ça va venir.
C'est fait. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour la semaine prochaine.
On vous amène du contenu de qualité. Vous n'avez pas idée.
Exactement. Donc, voilà, vous êtes en train d'écouter jusqu'à dans 30 secondes Radio Mousse. Sur mossradio.com et je m'appelle DJ Croc.
Et moi, c'est DJ Poisson.
C'était le discours sur le colonialisme de Césaire par les 3 premières parties et les 3 dernières parties seront la semaine prochaine.
Exact.
Bien, au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.